Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, programme très 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 chargé. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va pouvoir tout faire? C'est encore la grande question. On répond à la fin de l'émission. DuckTales, The Castle of Illusion, The Bureau, XCOM, Classified, Total War, Rome 2, Pikmin 3 et Diablo 3. C'est au programme avec forcément les news d'intro, le com des com, la minute culturelle, Monsieur Fall. Est-ce que ça va tenir en moins de 3 heures? Eh bien, on le saura à la fin de l'émission. Mais je commence en accueillant 3 de mes chroniqueurs favoris. Clément Appap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour.
Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Clément, avec le jeu le plus cher de l'histoire du cinéma, ou presque.
Oui, c'est GTA V, donc GTA V qui sort très bientôt et donc qui va accaparer à peu près toute l'attention vidéoludique. Et ben là, il a déjà un titre honorifique, donc il peut se targuer, c'est qu'il a coûté plus de 265 millions de dollars, d'après un site écossais proche du studio Rockstar North.
Donc c'est en gros, The Scotsman, tout qui à fait. Est un quotidien Scotsman, écossais, un site et écossais. Vu que Rockstar North est aussi basé à Édimbourg, voilà.
Et voilà. Et donc ce budget, en fait, il prend à la fois le temps de développement du jeu, c'est quand même 300 personnes pendant 5 ans. Enfin, 300 personnes pendant 5 ans, on a du mal à s'imaginer,
facturé,
mais c'est quand même beaucoup de monde. Mais aussi les dépenses en marketing et promotion. Et donc, il a dépassé. Est-ce que vous savez quel était le jeu le plus cher?
The Old Republic.
Tout à fait, c'était le MMO.
Ah ouais. Qui est passé les 100, alors il avait passé les 100 millions, c'est ça?
Les 200 millions, ouais, à cause du retard qu'il avait fait.
Il n'a pas dû rentrer dans ses frais.
Ah ouais, pas vraiment.
Et donc, c'est à peu près comme un blockbuster comme Spider-Man 3, en gros.
Beaucoup plus que Spider-Man 3, sachant qu'il n'y a que Pirates des Caraïbes 3 qui a dépassé le budget, c'est-à-dire que même un jeu film comme Avatar a coûté moins cher.
Ceci dit, donc 265 millions de dollars, c'est énorme, mais d'après les analystes, il devrait très facilement rentrer dans leurs frais, parce qu'il prévoit déjà 25 millions d'unités.
Est-ce qu'on pourrait pas remplacer le mot analyste par voyant? Je pense
voyant,
que ce serait
ouais.
pas mal.
Sérieux comme ça.
Ceci dit, nous aussi, on peut imaginer qu'il va se vendre à 25 millions.
Dans ce budget, j'imagine qu'il compte le marketing. Enfin, tu as dit qu'il comptait bien le marketing.
Oui,
tout,
parce
que le marketing est assez, assez conséquent. Enfin, dans le cinéma, c'est assez conséquent. Donc,
marketing, promotion.
Généralement, dans le jeu vidéo, il faut compter sur ce type de blockbuster pratiquement la moitié du budget en marketing. C'était le cas, par exemple, dans Halo 3, quand il était sorti. On avait eu quelques idées des répartitions marketing
marketing budget. Et ça peut être beaucoup plus que 50%, notamment dans une méga franchise qui s'appelle Call of Duty, où je crois qu'on atteint quasiment les 60 à 70% de budget marketing.
Et c'est vrai que dans le contexte de la licence GTA, il arrive à un moment particulier de la du cycle de console, parce qu'il arrive vraiment en toute fin de cycle.
Au moment où les
contrairement à ce qu'on avait connu sur San Andreas ou d'autres, qui étaient plus
parcs,
vers le milieu.
Tous les parcs sont
installés.
Et là,
voilà, il arrive un moment où les parcs sont optimum.
Mais ça montre que GTA 5, c'est quand même un titre. Enfin, GTA, c'est vraiment un titre particulier dans le monde du jeu vidéo, c'est sûr.
Tout à fait. Joël, des nouvelles du côté de Sony.
Oui, du côté de Sony, donc il y a eu le Tokyo Game Show où il y a eu quelques annonces, notamment celle du retard de la PS.
Le Tokyo Game Show n'a pas encore commencé, c'est la conférence préalable au Tokyo Game Show de Sony.
Absolument, voilà. C'est ce que j'allais dire, vous préciser. Donc ils ont annoncé en fait le retard de la PS4, donc le patron de la filiale jeu de Sony en Asie, qui s'appelle un certain type, qui s'appelle Hiroshi Kawano, voilà, a dû se fouetter jusqu'au sang en disant excusez-nous de nous faire attendre, nous avons besoin d'un peu plus de temps. La PS4 donc ne sortira pas en même temps au Japon qu'en Europe et aux États-Unis, mais beaucoup plus tard, 3 mois plus tard, donc le 22 février 2014. Pourquoi ? Parce que pour des raisons en fait de titres qui seront pas disponibles. Enfin, c'est la raison qui a été invoquée. Patrick, je dois faire la moue. Ouais. La raison invoquée, c'est qu'il n'y a pas assez de titres prêts pour le marché nippon, des titres qui ont trait à l'histoire nippone. Ces titres ne seraient pas prêts à temps.
Moi, je ne pensais pas que ce soit ça.
Ça
change vraiment. Enfin, les habitudes, c'est toujours de voir les sorties japonaises 6 mois avant, voire plus. Quand on voit l'histoire des consoles PlayStation, c'est toujours bien en amont.
Et ça, même la PlayStation 3. Hein.
Même la PS3, il y en a toujours cette image un peu d'épinal de voir le lancement au Japon. Ouais. C'est vraiment toujours le premier, les premières infos qui remontent du lancement d'une console Sony.
Mais je pense que là, en fait,
c'est un changement complet.
Je pense que là, ils sont sûrs avec la PS4 de gagner par rapport à la Xbox 360 par rapport à la Xbox One
au Japon,
et à la Wii U. Ouais, ils sont sûrs de gagner. Ils savent que le vrai combat sanglant sera en Europe et aux États-Unis, donc ils veulent lancer vraiment fortement en Europe.
Il y a une logique même en termes de taille de marché aussi aujourd'hui entre l'Europe et les US.
Mais le Japon, ils l'ont gagné d'avance, donc c'est pas ça qui va les tuer à mon avis.
Mais c'est quand même assez étonnant, justement ils vont gagner d'avance parce que le public l'aurait acquis, parce que c'est une société japonaise à la base, parce que le public l'aurait acquis. Mais c'est assez étonnant comme ça, cette espèce de vision ultra-capitaliste finalement, de s'intéresser avant tout au marché concurrentiel pour pas laisser du terrain à Microsoft sur l'Europe et les États-Unis.
C'est étonnant.
En même temps,
mais parce que moi je suis désolé, je serais japonais, je me sentirais quand même un tout petit peu vénère.
Ils vont leur offrir. Il y aura un jeu fourni avec et un truc avec.
Oui, puis laisser
3 mois qui survivront.
Je pense que laisser Microsoft seul aux US et en Europe en fin d'année était dangereux, très dangereux.
Non, mais tout à fait.
C'est logique. Effectivement, mais pour les Japonais, ça va pas être facile à vivre.
Mais ils ont un pack, enfin ils auront quelques trucs.
C'est eux qui vont acheter de l'import cette fois, ils vont acheter des consoles d'import américaines.
Mais quelque part aussi, peut-être que le public l'aurait acquis parce que historiquement, ils ont toujours sorti la console là en premier, etc. Peut-être que c'est peut-être aussi une erreur, on verra à l'avenir.
Mais après, il y a des réalités de production.
Je pense pas que les Japonais vont acheter une Xbox One.
Non, mais ils s'en offusqueront pas, de toute manière. Je pense pas. D'autant plus qu'ils auront un petit lot de consolation. Car en fait, Sony en même temps a annoncé deux nouveautés. La première, c'est une nouvelle version de sa PS Vita, donc plus légère, plus fine, une meilleure batterie.
Une heure de plus, ce qui est pas rien pour
Pardon,
une heure de plus, je crois, d'autonomie.
Et un écran différent, LED à la place de OLED.
Voilà, donc ils pourront se la procurer dès le 10 octobre. Donc voilà, comme ça, ils pourront
moins cher, c'est ça,
un peu moins cher, à prix de 20 000 yens, ça fait 150 euros à peu près. Voilà. Et l'autre chose qui est un peu plus curieuse et un peu plus forte de la part de Sony, c'est l'annonce de la PS Vita Poche. Alors, c'est pas une console, il s'agit en fait d'un boîtier.
Poche ou TV plutôt.
TV. TV, qu'est-ce que j'ai dit ?
T'as dit poche.
Poche. Nous, on se regardait genre poche.
Je sais pas d'où ça vient.
C'était le nom de code du projet.
Qu'est-ce qui lui arrive à Joël ? Parce qu'elle peut.
La pocket. Ça a déjà été fait, je crois.
Justement, parce qu'elle peut tenir dans la poche. En fait, donc, la PS Vita TV, en fait, c'est un boîtier. C'est un boîtier auquel qu'on va pouvoir relier en fait à son téléviseur et on va pouvoir également relier une manette à cette PS Vita.
Elle tient en la poche, mais il y a besoin d'une télé quand même. Et non,
voilà. Et voilà. Et grâce à ce petit boîtier, on pourra donc accéder au catalogue de jeux de la PS Vita, de la PSP, également de la PS One, donc en ligne. Voilà, soit
c'est, même, c'est un gros soutien de la plateforme PS Vita. On la disait un petit peu moribond depuis un moment, mais là, ils essaient d'en faire quelque part un standard.
Non, c'est la meilleure console actuelle.
Non, mais pour moi,
toute console confondue.
Ah oui, actuellement, ah ouais, c'est la meilleure console.
Mais moi,
actuelle.
Je suis pas super d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit vraiment un soutien de la PS Vita. Pour moi, c'est plus un concurrent des mini consoles.
Ah bah oui, de tout ce qu'on voit en Android,
comme des Ouya, etc. C'est oui, plus, mais, c'est plus là-dessus qui.
En même temps, c'est quand même le software Vita qui est poussé là-dessus. Et c'est quand même la plateforme Vita en tant que plateforme de jeu.
Et PS One.
Et voilà, je pense que c'est plus. Un investissement là-dessus.
Allez.
Cette semaine se déroulait les Ubisoft Digital Days où l'éditeur donc a présenté son catalogue hors blockbuster console, mm-hmm. c'est-à-dire
Toutes les prochaines productions digitales qui arriveront ou bien sur smartphone et tablette, sur les consoles en PSN, XBLA, mais aussi sur les consoles next-gen. Et tout ça, donc tout ce qui est dématérialisé, c'était présenté, c'est tout ce qui arrive en gros sur fin d'année et début 2014.
Yep.
Donc il y a eu quelques jeux présentés, on a eu des annonces, par exemple c'est l'arrivée du service Uplay sur les next-gen au lancement, donc ça a été confirmé.
C'est pas super excitant.
Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on sent que chez Ubisoft, cette plateforme digitale, c'est aussi un moyen d'expérimenter. On l'a vu sur les productions qui ont été présentées, on avait des titres bien connus, on avait des nouveaux Assassin's Creed, des choses comme ça, mais on avait aussi des toutes nouvelles productions, des choses complètement inédites. Il y a quelques titres qui nous ont marqué. Ubisoft, Erwan, on s'est croisés là-bas hier et on a, je crois, tous les deux flashé sur. Enfin, moi, c'est vraiment le jeu qui m'a marqué vraiment sur place. Ça s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Moi, j'ai trouvé qu'il était. Alors, comment le décrire ? C'est pas évident. C'est un jeu de plateforme aventure avec un look très très dessin animé, très très bande dessinée en fait.
Bah, c'est aventure 2D, grosso modo, c'est aventure 2D, comment on peut appeler ça?
Oui, c'est
scrolling horizontal.
Avec le moteur de UbiArt.
Exactement, le moteur UbiArt, il équipe les trois jeux que j'ai repérés sur le salon, donc, et c'est ce qu'on avait, c'est un thème qu'on avait. Oui. Vraiment, j'en avais repéré trois qui étaient équipés.
Ouais.
On avait parlé ici avec Michel Ancel il y a quelques semaines. Donc, c'est ce fameux moteur qui a été développé notamment pour Rayman Legends et qui sert de base pour ces nouvelles productions. Alors, ce jeu-là, très original, je trouve, dans la forme.
Parce que pour le coup, c'est la première fois qu'on a un jeu sur la Première Guerre mondiale. Il ne sera pas un FPS.
Oui, non, mais exactement.
Voilà. C'est ce qu'ils expliquent. Ubisoft dit que c'est un jeu sur la guerre et pas un jeu de guerre. Donc, c'est
plutôt intéressant. Et puis voilà, on a plusieurs personnages. On a un chien aussi qui est avec eux. Enfin, ça a l'air intéressant au niveau des...
La vidéo de teaser que vous pouvez trouver sur le net est vraiment, donne vraiment, ah, vraiment
c'est super
envie.
Beau. C'est super beau. On n'a pas pu l'essayer sur place, mais en tout cas, une belle promesse visuelle.
Ça se veut historique, quand même, d'après ce que j'ai compris. Ça se veut proche de l'histoire.
Respectueux du sujet quand même assez lourd qui est abordé. Donc voilà, gros espoir sur ce titre qui est, je crois, pour l'année prochaine. Donc,
mars 2014.
Sur Next Gen et sur les consoles actuelles. Le deuxième titre qu'il ne fallait pas louper, c'était Child of Light, qui est plutôt, lui, dans le genre jeu de rôle. Lui aussi, donc visuellement très très impressionnant. On retrouve encore cette touche très très dessin, qui est encore relatif au fameux UbiArt, hein, ce moteur graphique. Moi, j'ai pas pu le voir tourner plus que ça. J'en ai parlé pas mal avec des gens qui l'ont vu. Visiblement, ça se présente très très bien. Et graphiquement, pareil, ça fait très envie.
Graphiquement, ça scotche pas mal.
C'est
à la tête du truc,
aussi,
c'est quand même le directeur créatif de Far Cry 3, donc qui a voulu changer un peu d'univers.
Et qui, d'après ce que m'expliquait Ubi, c'est qu'ils ont réussi à créer au sein du mastodonte Ubi des petites unités de développement avec un côté très indie en fait. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir qu'une grosse boîte comme ça arrive à recréer comme ça des conditions de développement indépendant.
Ouais.
Puis moi, le troisième titre que j'ai vu, évidemment, c'est le Rayman Fiesta Run, qui est lui aussi basé sur ce fameux moteur, qui donc lui est la suite, on va dire, de Jungle Run, qui est dédié au smartphone et qui est, enfin voilà, graphiquement, c'est toujours super impressionnant. Le même gameplay tactile, mais ça marche toujours autant. Enfin, je trouve qu'il est,
ça marche,
il est super
très,
intéressant.
Très bien.
Et voilà, puis pas mal de choses. On a appris que Liberation, donc c'était le Assassin's Creed qui était sorti sur Vita l'année dernière, arrivait sur les consoles actuelles
en HD, à télécharger, ouais.
Voilà,
sortira bientôt.
Ça, ouais.
Et voilà, pas mal de companion app, ce qu'on a vu sur tout ce qui est Assassin's 4, donc sur tous les blockbusters de fin d'année, des applications qui servent à avoir des infos en plus ou à continuer la partie en dehors du jeu
surtout,
dans le salon.
Et surtout, ce qui était en démonstration aussi au Ubisoft Digital Days, c'était le companion app de Watch Dogs, qui était très impressionnant parce qu'on voyait un deuxième joueur avec un iPad, là, pour l'occasion, faire une course-poursuite contre un joueur qui était sur la console de salon. Et lui, en fait, il commandait les forces de police sur une map, la map de la ville.
Un peu tactique,
et y avait,
quoi.
Et il y avait une course de, et le joueur console qu'on jouait, le Hayden Pierce, c'est ça, et il devait fuir, et donc tu contrôlais l'hélicoptère, les voitures et tout ça. C'était ça avait l'air super super bien fait en tout
non
cas.
ça a l'air de bien marcher, ce genre d'interaction entre les machines. Donc voilà, donc c'était une journée bien remplie. J'avais plein d'autres news rétro, mais je crois qu'on n'aura pas le temps cette semaine, donc je vais pas vous les dire, moi je les garde pour la semaine prochaine. C'est dommage, j'avais des très très belles choses, mais la prochaine fois
garde les au chaud. Voilà, le com des com de la semaine dernière, alors ce n'est pas directement dans les commentaires de l'émission, mais on a Roger Wilco qui a lancé une pétition sur les forums de Silence on Joue.
Roger Wilco, attention.
Ouais, ouais, ouais. Si, comme moi, vous pensez qu'il est indispensable, au-delà du raisonnable, que « Oh, Silence on Joue !»« Oh, Silence on Gloue !» devienne le nouveau générique de Silence on Joue, manifestez-vous ici. Lorsque nous aurons récolté 1000 signatures, nous porterons la requête à l'intention de messieurs Erwan, Laurent Geoffrin, Jean-Marc Ayrault et Barack Obama pour application effective immédiate. Laurent Geoffrin, il en a un peu plus rien à faire. Ouais. Hein, mais bon,
peut-être qu'il écoute toujours,
hein, sait-on jamais. Donc voilà. Et il y a eu pas mal de réactions. Hein, donc, il y a même des gens qui veulent que le générique de début ne change pas. Hein, ce générique qui avait été décomposé déjà par Red à l'époque.
Il avait donné un nom, je crois, sur chaque,
sur chaque sample. Et ils veulent un générique de fin. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. C'est sur les forums de Silence on Joue. Nexus 5 qui dit
bonjour Nexus,
personne ne l'a encore fait mais je me dévoue. Game Dev Tycoon qui faisait partie de la minute culturelle la semaine dernière existe, c'est un jeu indé très proche de Game Dev Story, parce qu'on pensait que c'était Game Dev Story pour le coup, mais non, c'est Game Dev Tycoon sorti cette année. Il a été greenlighté et le jeu est disponible sur Steam depuis le mois dernier. La démarche anti-piratage des deux développeurs a été expliquée dans certains médias. Voilà, et en fait il y a Dandy Warhol qui précise que Dev Den Kikun n'est pas très proche de Game Dev Story, il est Game Dev Story, même mécanique de jeu, même vue isométrique, même titre. Il s'agit d'un rip-off paresseux du jeu de Kairosoft à deux ou trois idées de gameplay près qui n'apporte strictement rien au genre. Sur leur site, Green Art revendique l'influence du jeu de Kairosoft tout en cherchant à proposer une expérience différente. Inutile de vous dire que c'est un mensonge éhonté. Enfin, alors les choses qui fâchent, El Parasite, et ce n'est pas le seul dans les forums de Silence on Joue, il n'y a que moi qui n'arrive plus à utiliser ou à retrouver le RSS de l'abonnement au podcast, point d'interrogation. Alors, voilà, c'est là où ça devient drôle. On a changé de site depuis lundi de cette semaine, et ça, voilà, on a une équipe informatique qui, malgré le fait qu'elle soit très très douée, ce qui est vrai, hein, elle se débrouille très bien, mais le lancement d'un site, c'est toujours un peu à l'arrache. Il y a toujours plein de choses, plein de merde dans tous les coins, et voilà, je fais un lobbying très intense tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour qu'on nous remette le podcast à la même adresse, pour que les flux iTunes marchent très bien et tout ça. Ce n'est pas encore le cas à l'heure où on enregistre. J'espère que demain, à la mise en ligne, ce sera le cas et que cette nouvelle émission se retrouvera sur iTunes. J'espère. Auquel cas, il y aura un petit retard au démarrage. Ce sera réparé au plus vite. Enfin, Red, sur l'émission dernière. Oh là là, une émission de rentrée qui va bien avec la pluie. Dernière de Jean Z, dernière de Marmotte 19. Ouch, le retour de Monsieur Fall est à peine suffisant pour encaisser le choc, en espérant pour les deux que ce n'est qu'un au revoir, évidemment. Merci à Patrick de défendre le remake de Flashback. Il m'a l'air d'être l'un des seuls journalistes à le faire, ce qui le rend encore plus courageux. Le jeu ne mérite certainement pas d'être descendu au temps, surtout après la déception et le bâchage d'amis. Cela étant, c'est aussi le risque qu'on prend quand on ne crée pas de nouvelles licences et qu'on vend du rêve. Les remakes d'anciens jeux ne manquent pas, avec Double Dragon Neon, Afterburner Climax, en passant par Zaxxon Escape. Même de grands noms comme Jordan Mechner et son Karateka se sont plantés.
Oulala, oui, oulala.
Preuve que l'exercice n'est pas simple. J'aurais préféré qu'on nous donne de meilleurs moyens pour jouer et redécouvrir la version d'origine sur les machines d'aujourd'hui à la manière d'Eric Chahi et son Another World, mais dans un plus grand respect de l'œuvre initiale. C'est commercial et risqué de vouloir absolument transformer tout ce qui a été adoré depuis longtemps. Mettre à disposition un vieux titre dans les meilleures conditions est beaucoup plus rare et nécessaire. Bref, une version restaurée et non augmentée en 3D.
C'est un débat qui se pose, exactement. Même si, moi je trouve que c'est plutôt courageux justement de re-questionner le jeu et essayer de le remettre différemment en scène. Je trouve que c'était plutôt courageux. jeu que de simplement l'adapter.
Et enfin, Roger Wilco sur Splinter Cell. À propos de Splinter Cell et des modes de jeu, je ne suis pas du tout d'accord. Cette tendance à faire des jeux pouvant être résolus soit en furtif, soit en bourrin est une très mauvaise idée et ça ressemble plus à du marketing qu'autre chose. Personne n'oblige personne à jouer à Splinter Cell. Splinter Cell et Metal Gear Solid devraient rester des jeux d'infiltration et si on n'est pas bon dans ce registre ou si on n'aime pas le genre, eh bien on peut jouer à autre chose. Après tout, on imagine le tollé si Call of Duty sortait avec l'argument « un jeu que l'on peut finir sans tuer personne, si on veut ». L'argument comme quoi un jeu peut être fini en furtif mais aussi en butant tout le monde fait penser à un robot ménager qui peut presser, débiter, trancher, émulsionner, centrifuger, purifier et diffuser le même bulletin de dernier bulletin de Météo France, suivi de quelques utilisations pour se rendre compte que si ça fait plein de trucs, ça n'en fait aucun bien. Quel est l'intérêt pour un joueur de se creuser la tête à savoir comment contourner ce garde si on a la possibilité de straffer d'un coup d'AK-47 voilà. Et il continue, c'est un poste.
Il est remonté, le monsieur.
C'est très gamer, ouais. Mais c'est très intéressant. Enfin, c'est très argumenté. Et voilà, c'était la minute culturelle. On commence parce qu'on a un programme chargé, on est déjà bien avancé. Donc, on va commencer avec une chanson. C'est la version originale. Et peut-être que certains d'entre vous ont encore la version française dans la tête. C'est DuckTale. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo! Every day they're out there making DuckTales, woo! Tales of daring, do bad, and good luck tales, woo! Danger, watch behind you. On a vu deux titres historiques de l'univers de Mickey, l'univers de Donald, tout ça, redébarquer sur les consoles. Il s'agit de DuckTales et de Castle of Illusion. Et là, on te laisse la parole parce que ça fait facilement une semaine que tu ne tiens plus, Patrick. Oh, il fallait absolument parler de DuckTales.
Ouais, non. Alors, parce que voilà, il faut resituer quand même que ces deux titres, ce ne sont pas des moindres. C'est quand même l'âge d'or des jeux Disney en plateforme. 8-16 bits,
Moi, je l'ai 16 à l'époque.
Ouais, c'était 8-16. Ouais. Donc, du début des années 80, fin 80, début 90, on est vraiment sur deux titres vraiment très emblématiques et vraiment du gratin des adaptations Disney de l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a ces deux titres qui sont sortis quasiment en même temps, quelques semaines de différence, qui, pour moi, ont pris deux chemins assez différents, avec des réussites aussi différentes. On peut commencer peut-être par DuckTales, c'est celui qui faisait le lancement. Donc, alors lui, il était sorti, je crois, en 89 sur la NES, donc la Nintendo 8 bits de l'époque. Donc c'était un jeu Capcom de plateforme qui avait reçu, je crois qu'il y avait eu des suites aussi à l'époque, qui était devenu un peu culte au fil des années, qui s'était vraiment imposé comme une réussite dans son domaine. Donc là, sur ce jeu, Capcom l'a joué plutôt safe, donc dans le sens où c'est vraiment une adaptation du gameplay de l'époque. On retrouve vraiment un gameplay en 2D malgré une réalisation en 3D, c'est-à-dire qu'on a des décors modélisés 3D mais un gameplay vraiment à l'ancienne, et finalement je trouve que c'est un très bon choix parce qu'on retrouve toute la nervosité du jeu original, de sa réactivité, c'est super super réactif. Donc on dirige son personnage donc de Picsou dans différents univers avec des grandes thématiques, l'Amazonie, etc., donc avec des univers comme ça à grandes thématiques. On a des coups. Alors, il faut resituer un petit peu le gameplay. Le gros morceau du gameplay, ça s'appelle le pogo. C'est ce mouvement qu'on fait en rebondissant avec la canne du personnage. Ça paraît ridicule comme ça quand je vous en parle, mais une fois qu'on joue, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'on apprend à s'en servir pour donner des coups, interagir avec des blocs dans le niveau, puis à rebondir pour buter les ennemis dans le niveau. Donc, comme je vous disais, donc un décor en 3D, des persos en 2D qui sont très très bien animés. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment une touche très Disney, en fait. Vraiment, il y a un vrai respect du matériau original. Ça fonctionne bien, le gameplay marche bien. Les niveaux, j'ai plus vraiment les niveaux en tête, mais je crois qu'il y avait des petits ajustements en termes de level design. Mais voilà, on retrouve vraiment l'esprit. Ça a été modernisé, ça a été changé, mais on s'y croirait. Enfin, on a vraiment l'impression de retrouver une update du jeu original. Donc c'est signé Capcom et ça marche plutôt
c'est,
bien.
T'es, je t'es bien tombé dedans. C'est,
complètement. Enfin, dedans. Vraiment, il faut reprendre le coup du pogo, là, du rebond. Il faut s'y remettre parce que c'est vrai qu'on y a quand même une vingtaine d'années.
Moi, j'aimerais bien les mecs des Quackshots.
Les Quackshots, c'était pas mal aussi. C'était sur Mega Drive.
Les Quackshots, c'était vraiment bien.
Donc ça marche plutôt bien. Ça coûte une 15aine d'euros donc sur les plateformes digitales, Xbox. Moi, j'y joue sur Wii U parce qu'on peut y jouer sur le gamepad et je trouve que visuellement, sur le gamepad, ça tape pas mal parce que c'est sur le petit écran. Donc on peut y jouer en catimini, c'est vraiment pas mal. Alors, Mickey Mouse, donc Castle of Illusion, ça c'est un jeu Sega. Alors, c'est un peu différent parce que donc, le jeu d'origine était sur la Mega Drive. C'était un des jeux emblématiques.
De la Mega Drive,
C'était quasiment du dessin animé interactif à l'époque. Pour moi, ça annonçait un peu tout ce qui a suivi les Aladdin, enfin, tous ces gros jeux Disney qu'on a eu par la suite. Castle of Illusion, c'était vraiment une date. Alors là, c'est différent. Là, les développeurs ont pris de Sega, je ne sais plus quel studio chez Sega a développé dessus ce jeu. Mais alors eux, ils ont pris un parti pris différent. C'est-à-dire qu'eux sont passés à la 3D aussi dans les décors, mais aussi, enfin, la 3D est partout. C'est-à-dire que le personnage est complètement modélisé en 3D. Et on a aussi un gameplay qui se joue à la sauce 3D. C'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec des hubs.
C'est un rendu de 2,5D. C'est pas de la 3D. C'est pas un jeu 3D.
Tu fais bien de préciser, Clément. Alors, on retrouve ce gameplay 2,5D comme tu dis, donc on se déplace globalement
en scrolling horizontal
mais avec des effets de profondeur ce qui marche plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'on a parfois des hubs en 3D où on se balade comme ça. On a aussi des quelques séquences de plateforme où il faut se repérer en 3D. Il faut avoir cette logique 3D, ce qu'on n'avait évidemment pas du tout dans le jeu original. Et c'est là où je trouve qu'il y a un petit décalage. C'est-à-dire que j'ai ressenti un petit flottement dans le gameplay. J'ai trouvé qu'il y avait un petit, je sais pas si Clément, tu l'as ressenti aussi. J'ai trouvé qu'il y avait un petit, quand on sort de DuckTales.
Il y a quelques rares moments, effectivement, dans des sauts où c'est pas super précis.
Les sauts où on a cet effet de profondeur qui, je trouve, fait qu'on n'a pas ce côté.
À quelques rares moments. Mais moi, c'est pas le.
Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même. J'ai eu ce flottement.
Moi, c'est pas ce que je veux lui reprocher, moi. Moi, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, c'est un jeu très facile. Alors, en fait, on se rendait pas compte, mais à l'époque, c'est très facile. En 1h30, 2h, on l'a fini aujourd'hui. Si on y va doucement, en prenant son temps, et pour 13 euros, bon, c'est sympa, c'est fibre nostalgique, mais c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être améliorer un peu le combat contre les boss, comme ils l'ont fait apparemment dans DuckTales.
Mm-hmm. Ouais, il y a eu des ajustements,
des améliorations.
Alors, c'est dommage, mais... Mickey Mouse, je trouve que c'était courageux de dire on passe tout à la 3D.
Moi, je trouve que c'est honnête, je trouve que c'est un remake honnête. Et c'est un petit bonbon acidulé pour les trentenaires qu'on est qui ont joué à ce jeu-là avant.
Plutôt ambitieux, je trouve qu'il est vraiment en full 3D. Enfin voilà, il est vraiment bien fichu. Et il y a juste ce petit truc de gameplay qui est un petit peu. Sinon, on retrouve la diversité des niveaux. Cette histoire où Mickey part comme ça.
C'est quoi l'histoire?
En fait, Minnie s'est fait enlever par une. Mais c'est terrible, attends, l'histoire est terrible, terrible. Minnie s'est fait enlever par une sorcière, donc dans un fameux château hanté, et on part à sa recherche, donc on traverse des endroits plus ou moins. Et
ils ont fait
plus ou moins risqués.
Ils ont fait un truc sympa quand même, c'est qu'avant, dans la version de l'époque, le jeu, le scénario, comme tu l'as vu, qui est exceptionnel, était compté par des petites scènes intermédiaires écrites, et là en fait.
C'était joli, hein, toi, faut quand même.
Et là en fait, un narrateur.
Très bavard. Mais les deux jeux sont très bavards. DuckTales aussi.
T'as un narrateur qui vient par-dessus, mais je trouve qu'il va bien avec le jeu, et tu peux décider de le désactiver aussi, mais ils ont rajouté ça derrière, mais c'est un jeu, pour moi c'est vraiment une sucrerie, c'est un jeu sympa,
mais pour une sucrerie de 2 heures c'est
et il y a très peu de rejouabilité en fait. C'est ça le souci, mais moi je trouve ça honnête, c'est un remake honnête, c'est pas
il y a du travail, on sent qu'il y a du travail derrière,
et ils ont pas souillé mon souvenir d'enfance, tu vois, c'était vraiment c'était vraiment un de mes jeux préférés sur Mega Drive, et voilà, ils ont pas, voilà, c'est pas comme
pareil, il y a quelques changements aussi dans les niveaux, etc. Ouais. On ne trouve pas exactement, c'est pas un copie carbone du jeu original.
Mais c'est vrai qu'entre Flashback, DuckTales, Castle, là, on sent vraiment les remakes des jeux de notre enfance. Et...
C'est clair.
Quackshot maintenant, on l'espère.
Non, c'est Quackshot, c'était bien.
Ouais. Et vous pensez que les gamins d'aujourd'hui vont apprécier, enfin les gamins.
Je pense que tu peux Castle of Illusion. Je sais pas si les ados, les pré-ados l'achèteront, mais en tout cas moi c'est un jeu auquel je conseille aux gens qui ont 10-12 ans facile. C'est super agréable.
T'es au courant qu'à 12 ans ils jouent à Call of Duty Black Ops 2.
Ils peuvent jouer aussi à ça, moi.
C'est complémentaire.
Ils peuvent jouer aussi à ça.
Allez, maintenant allons du côté de la tactique dans les années. Après-guerre, c'est ça, 60 ou
50-60.
Avec The Bureau, XCOM Declassified. The noises. What is causing the attacks or the strange phenomenon is yet unknown. Indeed, there is debate whether the two things are related. What we do know is that the people here are reflecting. Yeah. un an quasiment pile après le retour remarqué de la licence XCOM avec ce reboot XCOM qui était particulièrement bon, qui avait reconnu une adaptation excellente, rappelons-le, sur iOS aussi. XCOM se diversifie et retourne à l'après-guerre, à cette belle époque de l'Area 51, de ce genre de choses, où les États-Unis gardaient secret le fait qu'ils avaient été à la rencontre des petits hommes verts. Avec The Bureau XCOM Declassified, on change de type d'univers et on change aussi de gameplay. Qui veut commencer sur le sujet? Vous battez pas.
Oui.
Oui. Allons-y. Non, c'est. Mais alors, c'est vrai que c'est un XCOM sans être un XCOM. Ça, c'est vraiment la première chose à dire. C'est le titre, c'est The Bureau. Donc, c'est vraiment, c'est pas du tout un XCOM dans sa mécanique de jeu. On retrouve l'univers de XCOM, on retrouve les mêmes monstres que XCOM, on retrouve des armes de XCOM. Mais effectivement, en fait, on est donc en pleine guerre froide où les États-Unis ont créé une espèce de cellule secrète qui s'appelle XCOM, qui était destinée en fait à lutter contre l'invasion russe. Mais c'est pas les Russes qui sont arrivés.
C'est l'invasion verte.
Et donc il faut garder la chose secrète pour les populations. Et en fait, comment ça se joue? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'avais peur, je trouvais ça extrêmement fouillis dans la présentation de jeu et j'en entendais pas grand chose. Au final, j'étais assez agréablement surpris. Ça se joue comme un Mass Effect au stéroïde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu en temps réel. On contrôle son personnage vu de derrière. Et en fait, on peut donner des ordres à ses coéquipiers. Et c'est vraiment un jeu, pour moi, de combat tactique. C'est-à-dire qu'en fait, si on le joue en temps réel, on shoot en temps réel, on meurt, enfin en tout cas, tout de suite, c'est une catastrophe. Et voilà. Mais on peut mettre en pause, enfin en simili-pause. En fait, on ralentit grandement le temps. Donner des ordres à ses collègues associés qui ont chacun des spécificités, un peu comme des classes. Et ça rappelle un peu Mass Effect aussi. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le côté vraiment tactique des combats c'est peut-être ce qu'on retrouve un petit peu dans le truc XCOM. Et je trouve que ça marche relativement bien. Maintenant, moi, j'ai un peu peur pour le jeu qui sort dans ce moment où il y a tellement de jeux qui sortent que même moi, voilà, j'ai pas pu y passer des dizaines d'heures avec Rome Total War à côté et tout ce qui va à côté. Mais j'ai trouvé ça honnête. Maintenant, il faut juste savoir à quoi on s'attend. C'est pas un XCOM. Voilà. Il réutilise l'univers XCOM, mais c'est un jeu honnête, c'est un tactique honnête et c'est pour moi c'est une sorte de Mass Effect au stéroïde pour l'aspect combat.
Ouais, parce que moi alors pour le reste, je trouve qu'on est un peu au ras des pâquerettes quoi, c'est-à-dire que c'est pas le jeu est pas beau à l'origine, donc je pense qu'il a été conçu par ce studio, je sais plus qui avait fait BioShock 2 qui était pas mal d'ailleurs. Donc c'est le même studio. Au départ, il devait être conçu comme un FPS et puis finalement en cours de route ils ont changé, donc ils sont passés en vue en jeu à la troisième personne. Et je trouve ça déjà pas très joli. Et moi, j'étais assez déçu, c'est-à-dire sur une histoire, effectivement, une ambiance 50s, 60s de la guerre froide, de Mad Men et tout, avec l'invasion extraterrestre. Je trouve que ça aurait pu donner vraiment quelque chose de très spectaculaire.
Ouais, c'est prometteur comme background.
Ouais, carrément, un peu creepy, creepy, je sais pas comment dire. Et là, je trouve qu'on enchaîne des scènes un peu molles, enfin, la mise en scène est vraiment, est molle et pas très intéressante. Le personnage même qu'on joue de cet agent spécial est pas très bien écrit. Effectivement, je trouve qu'il y a tout un côté un petit peu à la ramasse quoi.
C'est-à-dire tout l'enrobage. C'est pas pour ce côté-là.
Quand tu parles de Mass Effect sous stéroïde, c'est vraiment sans
les combats.
Pour les combats
purs.
Qui sont quand même un peu. Moi, je les trouve quand même un peu fouillis. C'est-à-dire que ce cercle que tu ouvres, un espèce de grand cercle que tu ouvres pour donner des choix à des coéquipiers, je trouve pas très bien, je sais pas, je trouve pas très fluide. En tout cas, j'y joue sur console de salon et je trouve pas ça très, très agréable, en fait. Voilà.
Moi, j'avais peur de ça. Au final, je trouve que ça passe plutôt bien. Je sais pas ce que t'en penses, Patrick.
Moi, j'ai plutôt accroché. En fait, j'en attendais pas grand chose non plus. Et, j'ai trouvé ce qui est surprenant, c'est que c'est un contre-pied total avec le reboot qu'on a eu il y a un an. Ouais. C'est-à-dire que le reboot était très respectueux des codes de la licence en les remettant un peu au neuf, en 3D, etc. Là, c'est un contre-pied complet, parce que pour moi, c'est plus un jeu d'action troisième personne avec une composante en plus qui vient de se greffer un peu gestion, mais finalement assez légère. Et je trouve que c'est plutôt surprenant dans le bon sens à ce niveau-là. C'est que c'est un bon jeu. Je trouve que. Et moi, contrairement à toi, Joël, j'ai plutôt accroché moi, à l'univers sur les racines de XCOM, comment ça a commencé, l'univers 50s. Je trouve qu'il y a plein de détails dans les décors, dans le. Moi, j'ai plutôt accroché à l'ambiance à ce côté.
En fait, toi, Joël, tu vois le verre à moitié vide.
Non, mais j'ai trouvé que ça rompait avec ce qu'on a l'habitude de voir, les univers gris, les trucs futuristes, brillants. Là, je trouve que le côté plus un peu boisé, un peu rétro, avec les technos un peu plus anciennes du côté humain, hein, je parle bien, pas extraterrestre. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Et puis j'aime bien les systèmes, même si les systèmes de dialogue, comme tu disais, c'est Max Effect qu'on a déjà vu.
Non, mais même systèmes de dialogue,
ça ne sert pas grand-chose.
Ce que je trouve dommage, c'est que le jeu, je trouve qu'il aurait pu être soit carrément beaucoup plus fourni, soit carrément beaucoup plus épuré. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un entre-deux qui ne fonctionne pas très bien, je crois. C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a beaucoup de fioritures, c'est ça qui est un petit peu. Comme justement ces dialogues.
Ouais, après, moi, j'ai trouvé que le système justement où on donne des ordres à ses persos marche plutôt bien, même si l'IA m'a l'air un petit peu molle. L'IA des persos, si on les aide pas, si on leur dit pas va faire je crois qu'ils font pas grand chose.
Non, justement, donc vraiment justement, les prendre en main, c'est toi le maître de.
Et voilà. J'ai trouvé ça relativement simple. C'est vrai qu'on a 4-5 ordres par perso avec ces branches d'ordres qui apparaissent. Moi, ça m'a paru plutôt, moi qui suis pas un spécialiste des jeux de stratégie et autres. Je trouvais ça plutôt bien fichu.
Je trouve ça honnête. C'est pas pour
moi. J'ai trouvé qu'on rentrait
assez
facilement dedans et que c'est surtout. Enfin, et puis l'univers m'a vraiment envie donné envie d'explorer.
Je n'y ai pas joué, mais vu comment je suis une quiche à l'aspect tactique dans Mass Effect, où je finis toujours par ne contrôler que Shepard et puis
c'est assez simple, hein, vraiment. Tu caches un mec derrière un obstacle, tu lui dis de mitrailler. C'est assez simple, vraiment.
D'accord.
On n'a pas l'impression, à la différence du précédent XCOM, effectivement, dans un genre totalement différent. Je trouve que là, on n'a pas vraiment l'impression que les ordres qu'on va donner à ses coéquipiers ont vraiment d'impact global sur. Je trouve pas.
Si tu donnes pas d'ordre, tu meurs en deux secondes.
Mais je sais plus, je me rappelle plus du nom des ordres entre le.
Oui, prends cette cible ou.
Prends des cibles stratégiques. Bombarder.
C'est
un peu confus.
Et ce qui est pas mal, c'est quand on donne un ordre, on a une vue subjective du personnage. Donc on cible vraiment très concrètement, tire sur tel truc. C'est finalement assez transparent.
C'est normal, moi je trouve ça moins confus que ce que je pensais, tu vois.
Pareil, ouais. Moi aussi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, franchement.
Mon cher ami, il est temps d'aller conquérir la Gaule et d'attaquer Carthage avec Total War Rome 2. Avant Jésus-Christ, je crois que c'est aux alentours de cette date que commence la grande campagne de Total War Rome 2. Après, qui est-ce qu'on va choisir ? Est-ce qu'on va choisir les Bretons, les Gaulois, les Romains, les Carthaginois, il y a plein de choix possibles, plein de factions qu'on peut contrôler au départ. On est dans un Total War. On avait déjà parlé de Total War Shogun 2 il y a 2 ans.
Déjà
2 ans ou l'année dernière ? L'année dernière. Bref, là c'est Total War Rome qui connaît un deuxième épisode. Comme d'habitude, c'est ambitieux, ça a l'air énorme, mais c'est vrai que quand on débarque et qu'on ne connaît pas très très bien, qu'on n'est pas un super habitué comme toi Clément des Total War, ça peut légèrement faire peur.
Alors moi je dis... N'ayez pas peur.
Don't be scared.
N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, petit.
Il y a d'autres jeux de stratégie comme les Europa Universalis ou des jeux très stratégiques qui peuvent faire peur. Les Total War, et il faut juste avoir un peu de temps Et quand je dis un peu de temps, c'est même pas 50 heures, même si nous, on joue à 50
heures.
Non, mais un peu de
temps.
Nuits successives. Non, mais disons, voilà, au bout de 2-3 heures, normalement, tu commences à comprendre les principes élémentaires.
Toi, tu connais bien le système.
Bien sûr.
Parce que, alors, moi, excuse-moi, mais dès le début, je trouve que on dirait pas que c'est un jeu qui te prend, enfin, il te prend pas par la main, quoi. Tu n'aies pas peur, mais
voilà. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Alors, en fait,
Non, mais il faut en parler.
N'ayez pas peur. Non, alors, un Total War, on le répète, il y a deux gameplays en fait qui se mélangent. Il y a un gameplay sur une carte stratégique qui ressemble un peu grosso modo à un Risk, sur lequel on déplace ses armées, on construit, on améliore ses villes, on choisit des armes technologiques, etc. Et après il y a un côté combat.
Alors la première partie est en tour par tour.
En tour par tour. Et il y a un côté combat qui est en temps réel, en 3D, sur des grandes étendues où là il y a des milliers d'unités qui combattent et l'une contre l'autre et voilà. Bref. J'adore les Total War. J'adore le principe de Total War. Même quand on le connaît, on y passe entre 30 et 50 heures. C'est vraiment des jeux à la rejouabilité infinie. Surtout avec celui-là, qui a quand même beaucoup de factions. Je crois qu'il a 7 factions.
La map est fascinante. C'est vrai que moi, je joue les Bretons, donc en Grande-Bretagne. Non, mais en Grande-Bretagne, je cherche à unifier la Bretagne. Et c'est vrai que quand on voit les autres factions en jouer, on se rend compte qu'il y a des Babyloniens qui jouent, il y a des choses comme ça, et on a l'impression qu'il y a des l'IA qui jouent des nations qu'on ne verra jamais
Alors c'est vrai que c'est gigantesque et c'est très très techniquement c'est très beau, c'est très bien. Maintenant au niveau artistique, moi je trouve ça un peu délavé, un peu grisâtre. Bref, ça me parle un petit peu moins, mais bon, on oublie parce que techniquement c'est très bien fait. Ça demande une grosse bécane si on veut faire tourner ça très bien. C'est peut-être le petit défaut du jeu, mais alors, ce qui a changé, ils ont changé des systèmes de régions où maintenant faut conquérir région par région. On va pas s'attarder sur les subtilités de gameplay. Non, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que ils ont essayé d'améliorer pas mal de choses et sur pas mal de choses ils ont réussi. Ils ont donné encore plus d'ampleur au jeu, mais sur 2-3 points, moi je trouve qu'ils ont fait des vrais. Enfin, ils se sont tirés une balle dans le pied. Notamment, ils ont voulu simplifier à l'extrême l'interface. Ils ont voulu justement la simplifier peut-être pour les débutants. Et en fait, au final, ils l'ont très mal fait. Autant un Civilization, quand ils simplifient, ils le font bien. Je vais m'expliquer. Sur un Shogun Total War 2 ou un autre, par exemple, quand on recherchait une technologie, on voyait quelle technologie on pouvait rechercher après. Et on avait la description de la technologie et quelles unités on pouvait créer après. Donc, quand on découvrait le jeu, il suffisait de passer la souris dessus, on voyait ce qu'on pouvait créer. Et donc, on comprenait au fur et à mesure le jeu comme ça. Là, aujourd'hui, quand on cherche une technologie, il nous dit juste quelle technologie on va pouvoir choisir après, sans nous expliquer quelles sont les conséquences. Donc, on est obligé d'aller ouvrir une deuxième page et une troisième page, etc. Et c'est là où moi, je trouve qu'ils se sont planté un truc dans le pied, parce que les débutants, avant, il suffisait de prendre le temps de lire, tout était c'était un peu plus fourni, mais on avait le temps de tout comprendre, de naturellement comprendre les ramifications de gameplay. Et là, en voulant simplifier à l'extrême, c'est à toi après d'ouvrir tel truc, et là je trouve qu'on s'y perd un peu, et pour moi c'est un vrai défaut. Et ils ont voulu simplifier à la Civilization, alors que Civilization, ils ont réussi à simplifier avec toujours la richesse d'explication derrière. Et ça, moi je trouve que c'est une grosse erreur, notamment pour les débutants. Et autre grosse erreur, parce que j'aime quand même beaucoup le jeu, mais c'est ultra buggé. C'est moi, plusieurs fois, j'ai eu des plantages. Ils l'ont sorti sans être fini, clairement. Après, ils nous assurent qu'il y aura un suivi exemplaire. Ils nous ont promis un patch par semaine. Moi, je trouve qu'il n'est pas fini. Donc, après, il a des grandes qualités, c'est ROM. Et comme tous les Total War, j'encourage tous les parents à faire jouer leurs enfants. Parce qu'un Total War, quand on y joue, bon, déjà, on aime ça. Mais surtout, on apprend. J'ai jamais autant appris sur une période historique qu'en jouant à un Total War. Quand j'ai joué à Shogun,
on devrait en mettre dans toutes les écoles.
Exactement. Sincèrement, j'ai appris énormément en fait sur le Japon de l'époque.
Ah, t'as une heure de Total War.
Peggy 16. Hein,
non mais sans deck, ROM Total War 2. Moi, en y jouant, je me suis replongé dans le wiki les 4 premières heures. Je me suis replongé dans le wiki interne du jeu plus Wikipédia et j'ai redécouvert. j'ai redécouvert l'histoire. Et ça, mine de rien, c'est un des rares jeux, un des rares titres, une des rares franchises qui te donne envie de comprendre et d'apprendre l'histoire de l'époque, parce qu'en plus, c'est extrêmement réaliste. Donc, ça se veut vraiment réaliste.
Mais est-ce que c'est-à-dire que tu joues des campagnes qui ont vraiment donc, des vraies campagnes historiques?
Alors, ou... si tu joues la campagne, forcément, toi, tu refais l'histoire. Donc, voilà. Mais tu as des batailles historiques qui sont peut-être même les batailles les plus jolies, les plus belles, les plus travaillées en termes... tu rejoues des batailles historiques. Non, moi, c'est vraiment un titre que j'adore. Maintenant, et même si tu connais le gameplay, tu joues avec, avec grand plaisir. Là, il y a encore des subtilités qui ont été faites en termes de formation de groupe en temps réel, donc c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, je trouve que pareil, encore un défaut technique, l'IA, donc l'intelligence artificielle des ennemis sur le champ de bataille.
Elle est pas top. Hein.
Elle est pas top. Elle se laisse prendre à revers facilement.
Dès que tu ouvres deux fronts, c'est vrai que moi j'ai réussi à gagner des villes alors que j'étais en infériorité. Ouais. J'ai ouvert
de
deux
très
fronts
loin.
J'ai rushé un peu sur un front et attendu dans l'autre.
C'est pour ça que moi aujourd'hui, même si ce jeu-là est très bien, je conseille d'attendre un petit peu, qu'il baisse de prix, qu'il soit patché pour l'acheter. Et si vous voulez vraiment vous mettre un Total War, bon après il faut aimer la période, mais c'est Shogun Total War 2 qui est vraiment exceptionnel. Voilà.
Ouais, moi, il y a aussi des choses. Alors, après, je ne sais pas. J'avais joué à Shogun 2, hein, mais peut-être pas assez. Enfin, je me souviens plus très très bien des éléments de gameplay à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans l'aspect des batailles, il y a aussi la possibilité de confier à l'intelligence artificielle une partie de ton armée. Parce que c'est vrai que
c'est une nouveauté, mais c'est une erreur.
Voilà. J'ai essayé. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que alors ça veut dire que vous perdez cette partie de votre armée. Moi, j'ai perdu toute ma cavalerie lors d'un assaut. J'étais très énervé. Hein, je confie à une intelligence artificielle parce que je me suis dit tiens bon il va
jamais
gérer
faire confiance à l'IA
j'ai commencé à vouloir attaquer avec mes archers
pour expliquer à ceux qui connaissent pas du tout en fait on en combat en temps réel on contrôle des blocs d'armée donc il y a des milliers d'unités mais on contrôle jusqu'à quoi 20 blocs 10 blocs 20 blocs
20 voire
blocs.
40 si on a on peut gérer 40
et un bloc peut être 100 personnes ou 40 ou 200 voilà on gère pas les unités une par une. On gère des blocs d'armées qui peuvent être effectivement des cavaliers, des lanciers, etc.
Et on les regroupe. Et en fait, il y a des types de formations. Ça, c'est le truc que je préfère, c'est qu'on prépare son armée avec les types de formations. Est-ce qu'on met les archers devant,
c'est
la mêlée, la cavalerie
On a vraiment les petites figures géométriques, justement. C'est pour les débutants, on nous montre.
Mais ça, c'est bien fait.
De manière très claire, comment on veut disposer son armée. Ça, je trouve ça pas mal.
Non, il y a des améliorations aussi. Il y a les lignes de vue qui sont prises en compte. Il y a pas mal d'améliorations, mais tout ce qui est amélioration, en fait, il y a peu envergure et moi je trouve que vraiment il pâtit en fait de sa finition technique qui est pas du tout attendez un petit peu mais sinon vraiment jouer à Shogun Total War Rome 2 qui est un des enfin voilà je le répète c'est un excellent jeu qui est techniquement est magnifique et qui tourne très bien sur les bécanes actuelles.
Mais après celui-là c'est vrai qu'il y a
il y a l'aspect gigantesque comme de la carte
parce qu'il y a toute l'Europe le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
c'est vrai que malheureusement je trouve qu'ils l'ont sorti un poil tôt. Voilà, un poil tôt, un poil rushé.
Eh ben, c'est l'heure de Monsieur Fall. Monsieur Fall et la minute. C'est pas grave. Monsieur Fall et sa chronique jeux de société. Monsieur Fall de TrickTrack.net, bien sûr. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Juan. La semaine dernière, j'ai mis à l'honneur l'intelligence pure en vous parlant d'un jeu que j'apprécie énormément à base de cubes en bois, de comptabilité, d'opportunisme. Bref, un truc pour cerveau éveillé. Et donc, j'ai décidé de rééquilibrer les chakras du monde en vous parlant cette semaine d'un petit jeu stupide, idiot, mais plein de fun. Ce jeu répond du nom de Visual Panic. Il est signé Alexandre Droit. Il est édité en français par Cocktail Game. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. On est dans du petit jeu familial qui coûte pas cher puisque c'est 10€, c'est ces petites boîtes métal que vous trouvez sur les comptoirs de vos boutiques préférées. Alors de quoi donc il est question dans Visual Panic? C'est un jeu à discrimination visuelle qui reprend les grands classiques genre Jungle Speed où il va falloir aller le plus vite possible. Alors comment fonctionne le jeu? De quoi est-il composé? C'est simple, il n'y a quasiment que des cartes. Sur ces cartes sont répartis des dessins et des mots écrits de différentes couleurs sur des fonds eux aussi de différentes couleurs. Un joueur va choisir une couleur, par exemple rouge, on va retourner une carte au centre de la table et là tout le monde va devoir repérer les mots rouges et les objets dessinés en rouge et le plus rapide d'entre vous va poser la main rapidement sur la table, sur la carte donc il va la cacher et il va devoir énumérer les éléments qu'il considère être rouges. Déjà là il ne va pas falloir se tromper et il ne va pas falloir en dire trop ou pas assez et bien sûr pour corser tout ça il y a des choses qu'il ne faut pas prendre en compte, par exemple les mots écrits sur fond noir ne doivent pas être considérés puis il y a une histoire de caméléon qui va venir foutre la pagaille enfin bref, c'est fun, c'est rigolo, ça va vite, c'est rapide, c'est familial, enfin familial si vous êtes un jeune adulte de 25 ans avec de la force, ne jouez pas avec un enfant contributeur, vous allez lui écrabouiller la main. Mais bon, entre adultes qui aiment s'adonner aux soirées, à, comment dirais-je, avec ces boissons qu'il faut consommer avec modération, ça peut le faire, c'est assez amusant, c'est très fun. Enfin bref, c'est un jeu pour jouer entre potes, ça va vite, c'est sympathique. Je vous rappelle le nom, c'est Visual Panic, un jeu d'Alexandre Droit, édité par Cocktail Game, le spécialiste des party games pour déconner, des petits jeux d'apéro. C'est pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. On ne s'en lasse pas et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de l'indispensable site tricktrack.net et tricktrack.tv. La minute culturelle, alors la minute culturelle, c'est on va le remercier parce que c'est Lord Sinclair 3DS qui a proposé ces questions, même si j'ai l'impression que tout à peu près, non sauf quelques-unes, mais c'est des questions qu'on a déjà eues dans les minutes culturelles à plusieurs reprises, voire c'est des questions qui est multi
attends, il y a la pression là du coup, si on répond pas.
Mais c'est encore parce que je pense qu'on a vraiment eu, en plus il y a pas très longtemps je crois, mais c'est sur les jeux les plus vendus, donc c'est
oui, mais on
avec
va,
quelle question
alors c'est si, une chance de s'en tirer comme
citer,
ça
citer 5 jeux figurant dans la liste des 10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, tous les temps confondus.
Wii Sports, Super Mario Bros.
De numéro 2, numéro 1 et numéro 2, pas mal.
C'est une licence ou un jeu propre?
Les jeux propres.
Il n'y a pas de jeu CinemaWare, malheureusement, je ne pense que, pas.
Bah, GTA, GTA 4, non, il n'y a pas GTA.
Ah, il n'y a pas GTA.
Un Call of Duty, non. Non.
Nope.
Ah oui, non, il y a Wii Fit. Wii Fit, non, il n'est pas dedans.
Oui, non.
Oh, oui, non.
Il n'y a pas de Halo.
Il n'y a pas de Halo.
Ouch.
Ouch.
Là, nous n'en avons que deux.
Il
hein.
n'y a pas un Zelda.
Nope.
Un Metal Gear.
Non plus.
Il y a pas un Pokémon, me souffle-t-on.
Pokémon Red, Green et Blue sur Game Boy, ça fait 3. Ouais.
Beaucoup de Nintendo quand même. Hein.
Un Mario Kart.
oui, Mario Kart, oui. Mario Kart, oui, en troisième
Tetris,
position.
Mario Tetris,
Kart, oui, en Tetris, Game Boy, cinquième position. Donc,
Angry Birds.
Alors, Angry Birds n'est pas sur cette source, mais je pense que tu as raison. Après, c'est les vendus. Oui, je pense que tu as raison. Mais bon, c'est ce dénigrement, c'est ce dénigrement des jeux iPhone comme ça qui a. Rockstar espère vendre 25 millions de GTA 5 en un an. S'ils y parviennent, à quel rang se glisserait GTA 5 dans le top 10 des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps?
À 25 millions.
Mais en un an, à 25. Ah bah il serait.
Ah mais sur un an ou.
Non, sur la totalité.
Ah, avec 25 ans. Millions.
Non, mais ils vont vendre beaucoup plus que ça.
Ah non, oui, il serait.
25 millions, c'est en un an.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Au bout d'un an, il serait.
Avec 25 millions ou il se place sur le, voilà. Sur le top 10.
Moi je pense qu'il n'est pas dans le top 10.
À peine, ouais. Il serait peut-être 10e ou.
Non, moi je pense qu'il n'est pas dans le top 10.
Il serait 11e. 11e,
d'accord.
Il serait 11e juste après Super Mario Bros.
Parce qu'on les connaît, les loustiques qui posent des questions. C'est ça le truc.
En 3DS.
Il existe un jeu. Il existe un jeu qui n'est pas dans le top 10 mondial, mais qui se retrouve classé numéro 2 au top 10 européen. De quel jeu s'agit-il? Et alors,
GTA.
Il est sorti sur tous les territoires.
GTA?
Nope.
Un jeu qui marche bien en Europe et pas forcément ailleurs.
Moins. Il a marché partout, mais il est vraiment numéro 2 sur le marché européen. Il a bon courage. Hein.
Oui, non.
Nintendogs.
Ah bon
eh oui,
ah, tiens.
Eh, oui.
Ah, les gens aiment les chiens, apparemment.
Et les carlins.
Alors, question.
Les carlins, ça va devenir gênant.
Question spéciale, Clément. Combien y a-t-il de jeux PC parmi les 10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps?
Peu.
Un. Un ou deux?
Voir zéro, je crois.
C'est bien zéro, exactement zéro. Le premier est les Sims, 42e position avec 11 millions d'unités vendues.
Ah ouais, mais les masses.
Plateforme d'avenir.
Les masses n'ont pas forcément raison. Non, mais le PC, attends. Excusez-moi, j'ai un peu l'impression à chaque fois
bravo,
de défendre le PC.
On atteint le point PC avec
voilà.
C'est
parti. Non, mais le PC, c'est quand même.
On sait, Clément, mais oui, Clément.
Mais oui,
bien sûr. Il y a l'Amiga aussi, tout ça, mais on est tous pareil.
Non, mais le PC est encore là.
On est avec toi,
le PC est encore là. Le PC encore là.
Quel est le jeu Microsoft le plus vendu de tous les temps?
C'est pas Age of Empires, non?
Non, mais j'aurais dit un Flight Sim.
Nope.
Ah, bah, allô, bête, là, c'est pas coup, bête.
Non mais c'est pas ça.
C'est pas
nope.
Ça. Attendez, un jeu.
18e place mondiale.
Un jeu Microsoft.
C'est pas Windows ni ou non non bah non
très,
non,
très bonne blague
des mineurs.
Non, c'est vrai.
Il s'agit de Kinect Adventures avec 20 millions d'unités vendues.
Ouais, bah oui forcément
il est
partout, il était en bundle,
il était en bundle avec la Kinect.
Quel est le jeu le Sony le plus vendu de tous les temps? Et le jeu Sony le plus vendu de tous les
le
temps.
Le jeu de Sony ou vendu sur les consoles Sony?
Le jeu Sony.
Donc exclusivité.
Exclusivité. Sony. 27e mondial. 15 millions d'unités
c'est
vendues.
C'est pas un jeu de danse c'est... ou de chant?
C'est pas Uncharted?
Nope.
Il n'y a pas eu un Final Fantasy?
Non, non, bah non
c'est
Sony. Non,
il n'y a pas Sony. Enfin, voilà.
Ouais, pas évident.
C'est pas jeu de danse ou de chant ou de karaoké ou de guitare ou de...
Il s'agit de Gran Turismo 3 pour PlayStation 2 avec 15 millions d'unités vendues.
On est ridicule.
Ah,
ridicule.
Jeu une exclusivité. D'accord.
Bah oui.
Ah,
oui.
Bah oui, moi aussi.
À 2 millions près, à combien d'exemplaires s'est vendu le Call of Duty le plus vendu?
18.
À 2 millions près, tu as tort.
Le Warfare 2. Warfare 2 non
et c'est le Warfare 3.
Ah ouais.
Ouais. Et il s'est vendu à 15 millions
d'unités. Ah, j'étais pas loin.
Ah,
ouais. Raté.
Et voilà. Alors, il y avait encore des questions, mais on n'a pas trop le temps parce qu'on est vraiment, vraiment à la bourre. C'était la minute culturelle. Merci, hein, merci Lord Sinclair 3DS de prendre un peu
c'est
la cool, relève. Hein. Vous pouvez. Alors,
c'est des bonnes questions.
Minuteculturelle@gmail.com pour envoyer vos questions que je poserai aux chroniqueurs. On est toujours preneurs. Voilà. Et maintenant, on passe à quoi? Ah oui, on passe au petit machin de toutes les couleurs là sur la Wii U. Pikmin 3. Une nouvelle licence qui était apparue sur l'époque GameCube. Donc de Nintendo, Miyamoto était aux commandes, je crois, à l'époque,
ouais,
en tout cas, producteur.
Ah,
voilà. Et là, troisième épisode, Pikmin 3 sur la Wii U. Vous y avez joué, Joël et Patrick. Vas-y,
oui,
Joël.
Donc, un jeu de stratégie très sanglant. On va
avec
pouvoir,
des batailles.
Avec des batailles homériques. Homériques. Non.
On se prend sur console. Donc,
voilà. Un jeu stratégique d'abord, où on va devoir diriger 100 Pikmin, donc ces petits êtres tout mignons. Tout mignon, de différents. On a entendu un des cris dans la bande-annonce, donc voilà, ça donne un petit peu l'idée. Des Pikmin de différentes comment dire,
couleurs
et fonctions.
Et
fonctions, absolument. Certains peuvent voler.
C'est un peu un Lemmings mis au goût du jour, en gros.
Non, parce que tu les diriges, c'est pas un troupeau comme ça. Par contre, c'est que si tu vas dans l'eau, ils te suivent et ça se passe mal en général.
100 d'entre eux, donc en diriger 100, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a une mission par jour. On a une mission à remplir en un jour. Donc à chaque fois, il y a une espèce de compte à rebours qui se fait et qui ajoute vraiment, là, pour le coup, du piment au jeu. C'est-à-dire qu'en une journée, on doit effectuer des certaines tâches, dont la principale est en fait de trouver des fruits, de la nourriture, dans ces petits jardins qu'on explore donc à hauteur de Pikmin. Donc c'est ça, c'est super mignon quand on se retrouve dans ce monde entouré de ces gigantesques arbres fruitiers.
Des créatures aussi agressives.
Donc ça, c'est l'aspect vraiment... En tout cas, moi, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans ce jeu. C'est-à-dire se retrouver à hauteur, à échelle presque d'insectes. C'est-à-dire voir ce monde... vraiment super joli. Le côté stratégie aussi m'a beaucoup... m'a pas mal plu, donc le fait de devoir... lors de ce compte à rebours, pris par le temps pour devoir effectuer ses tâches, trouver ses fruits.
On commence un niveau avec 100 Pikmin.
Non, pas au début, on doit les créer. Enfin, il faut aussi les faire se reproduire, etc. Il y a des systèmes pour acquérir des Pikmin les récupère dans des pièces, etc. Enfin, il faut construire aussi son...
Il faut construire son parc de Pikmin.
Exactement.
Voilà.
Qu'on récupère tous les soirs en repartant.
Parce que si on l'abandonne, en fait,
ils sont mangés.
Ils sont mangés. Et voilà. Oh. Ah oui,
ah, mais c'est sans pitié.
Ah, mais lors de scènes qui sont
assez,
vraiment, mais c'est déchirant.
Ah, mais c'est déchirant. On verse quand on
s'en
veut,
on verse des larmes. C'est assez terrible.
Il faut tout débarrasser. Parce qu'en fait, c'est découpé par journée. On a des, ouais. Donc, comme tu disais, Joël, des missions à remplir. Des fois, on peut pas la boucler avant la fin de journée. Donc, vite, avant que le soleil se couche, il faut vite rapatrier tous ces Pikmin. Sinon, ceux qu'on oublie dans un coin du niveau, eh ben, ils se font tuer. Voilà. Oh. Donc, il faut vraiment organiser sa journée.
Par des
grosses bêtes qui arrivent, qui les mangent, et on les voit se faire manger. Enfin, c'est terrifiant.
Et oh là l'aspect stratégique du jeu.
Non, mais c'est
vraiment chouette. L'aspect stratégique.
On se sent responsable des personnages.
Les jeux Nintendo ont changé, quand même.
Ouais. Et l'aspect stratégique du jeu est assez, moi, je trouve assez plutôt sympathique et assez ardu, mine de rien. Parce qu'il faut vraiment suivre le cheminement de son troupeau de Pikmin qu'on va pouvoir diviser en trois, parce qu'il y a trois personnages principaux. Donc, il faut vraiment bien coordonner ses tâches, les mouvements, les accompagner, voir, voilà, veiller à ce que les uns n'aillent pas mourir noyés ou ne se fassent pas manger. Alors ça, je trouve ça vraiment assez excitant. Et donc, avec une difficulté qui est assez, qui est graduelle, plutôt bien fichue. En revanche, moi, l'aspect du jeu qui m'a déplu, c'est tout l'enrobage. Vraiment, là... C'est presque cet aspect vraiment, pour le coup, super naïf. Parce qu'on n'est pas du tout dans
c'est
un jeu...
univers Pikmin.
On n'est pas non, mais on n'est pas du tout. C'est pas du tout un jeu pour enfants. C'est-à-dire, c'est un jeu qui, en dessous de 8 ans, on va vraiment avoir, enfin, voire même de 10 ans, on va vraiment avoir du mal. Alors, pourquoi se taper ces personnages, vraiment qui sont,
gamins.
Qui sont gamins, c'est insupportable. On a vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons.
Après, c'est l'univers, ça serait difficile, je pense, d'avoir des persos photoréalistes.
Non, mais moi, je pensais aussi, quand j'y jouais, je pensais à Pixar. Je me dis, ils fabriquent des personnages qui sont, des personnages qui sont grand public, qui transmettent quelque chose. Mmh. Là, je sais plus, Charlie, je sais plus comment il s'appelle, Charlie, Alf et Brittany, au secours, quoi.
Non, mais je trouve qu'ils ont leur mais
au secours, le gameplay du jeu qui est assez complexe, adulte, combiné à la niaiserie du propos, ça marche pas du tout, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté, moi je trouve vraiment super agaçant. Ah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. À ce jeu.
Le tour de force de ce titre, quand même, c'est de nous faire jouer, comme tu dis, un vrai jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment derrière. C'est complexe dans le gameplay, mais on s'en rend pas compte quand on commence. Enfin, on apprend tout doucement à gérer ses Pikmin, à avoir les différentes utilisations de ses personnages selon l'environnement, les objets qu'on doit utiliser, etc. Et je trouve que ça se fait très naturellement. C'est-à-dire qu'on acquiert très très vite les différents gameplays qui sont loin d'être évidents, mais finalement, ça se fait très très bien. Il y a une courbe d'apprentissage que je trouve super bien fichue. Et comme tu dis, c'est plutôt complexe, mais à aucun moment, je trouve ça rédhibitoire. Moi, j'ai pas encore rencontré ce moment où ça devient. Enfin, je trouve qu'on sent toujours bien aux commandes du jeu. Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé cette licence. J'ai toujours trouvé ça plutôt intéressant. Moi, j'ai tendance à allumer un encens quand je joue au Pikmin. Je trouve qu'il y a vraiment un univers, au contraire, que moi je trouve.
C'est quoi ton Pikmin préféré?
Pikmin de base. Moi, j'aime bien et j'aime bien aussi sur.
Je pensais t'as demandé l'odeur de l'encens.
Non, mais moi, je trouve que ce qui est fort, c'est que c'est un jeu qui a à la fois une difficulté, mais que je ne trouve jamais stressant. Parce qu'il y a un enrobage, moi, je trouve au contraire, qui est plutôt peace, calme. Il y a un côté un peu écolo dans l'univers. Et je trouve que c'est un jeu, moi, qui me stresse pas. C'est-à-dire que même quand je perds, à aucun moment, je m'énerve contre la bécane. Je trouve qu'il y a un état d'esprit que je trouve reposant. Et c'est rare aujourd'hui. On est toujours dans des jeux où on est plutôt à tout donner. Et je trouve
que Pikmin,
et moi, je suis plutôt dans un bon état d'esprit quand je joue à Pikmin. Je trouve qu'il y a un bon feeling avec ce jeu. Et je trouve que ça marche plutôt bien, malgré une complexité. Quand on gratte un petit peu, qui est bien là. Et moi, je trouve que sur la version Wii U, moi, j'ai plutôt bien adhéré au côté. J'ai joué avec sur la Wii avec la Wiimote et le.
T'as pas plus intérêt à jouer avec le truc.
Alors, il y a plusieurs façons de jouer. On peut jouer ou bien uniquement avec le gamepad, etc. Alors moi, j'ai joué avec le gamepad sur les genoux, donc on a l'écran qui s'affiche et j'avais en même temps la Wiimote pour diriger mes personnages.
Pour les fouetter, quoi.
Alors bon, c'est ça. Quand ta copine rentre et te voit avec ton gamepad, ta télé et ton truc, il faut pas mal expliquer ce qu'on fait, etc. Mais j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, justement le fait d'avoir l'action sur l'écran et d'avoir la carte. On peut comme ça avec quand on appuie sur la carte, on peut se balader dans la carte, vérifier où sont les Pikmin, etc. Et je trouvais que c'était une utilisation vraiment intéressante du gamepad comme une
comme un compagnon app.
Mais voilà, on est vraiment sur ce trip de d'écran supplémentaire qui permet de ne pas boucher l'écran principal pour installer une carte. On ne bloque pas le jeu. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien foutu.
Et est-ce que c'est pas le système qui rendrait les consoles de salon compatibles avec les jeux de stratégie? Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un gros problème. Hein. Les jeux de stratégie temps réel sont incompatibles. Et c'est vrai qu'avec un deuxième écran sur lequel on peut donner un
Après, il faut le
total War, oui, pour moi, mais un StarCraft 2, non.
Il faut un système, le plus important, c'est un système d'appréhension des personnages. Alors, sur Pikmin, on joue avec la Wiimote, on les encercle, on les siffle pour qu'ils nous suivent. C'est vraiment adapté à ça. Sur un jeu, peut-être à la ROM, ça va être plus compliqué d'avoir ce système de, pour attraper les. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les sélectionner, etc. Ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Sur Pikmin, ça marche parfaitement parce que c'est très simple et très visuel. Et ça se fait vraiment facilement.
Alors, voilà. Pikmin 3, donc c'est sur Wii U, exclusivité sur Wii U. Et on va terminer en parlant d'une adaptation console qui s'est plutôt bien passée pour elle. C'est celle qu'on n'avait pas attendue, forcément, à l'époque où ça a été annoncé. C'était plutôt une surprise. C'est Diablo 3 qui arrive sur PlayStation 3 et Xbox 360. Promis, on n'en a plus pour longtemps. Clément qui manque de s'endormir.
C'est un jeu PC, Clément.
Mais il est sur console. Non, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. On l'a fini. On est passé à autre chose.
Patrick, alors ce.
Ah Diablo oui, 3. Alors en fait, moi je ne l'avais pas fait sur PC. J'avais loupé à l'époque sur PC. Donc j'ai découvert sur console et je me suis bien amusé avec. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu. Enfin, qu'un gameplay très. J'ai pas senti en jouant. En fait, j'ai découvert sur console, pour être très franc, j'ai pas senti un jeu PC bridé en version console. J'ai pas trouvé un jeu tiré vers le bas pour qu'il rentre sur une console. On a un gameplay qui est vraiment, vraiment construit pour le gamepad. Moi, je joue toujours avec le barbare lorsque je découvre un jeu. Je prends toujours le perso basique pour rentrer en action directe et puis après on voit si affinité on va sur un personnage un peu plus costaud, un peu plus complexe. En tout cas, bah, j'ai bien apprécié le côté rentre dedans et très simple du jeu et vraiment avec un gameplay adapté. Je trouve que c'était direct. Il y a aucun moment où on se dit tiens ça a été tiré vers le bas. Je ne connais pas la version PC, donc moi c'est vraiment je suis rentré par la console. En fait, j'ai trouvé très old school ce jeu. Je le connaissais pas. Je trouve qu'il a un côté très gauntlet à l'ancienne.
Ah bah, juste c'est plaisant.
Exactement. Et c'est pour ça que je dois en être quand même à une petite 7-8 heures de jeu quand même. J'ai lancé vraiment par acquis de conscience. Je dis, bon, je vais quand même essayer voir. Et finalement, j'ai quand même sombré avec ce côté un peu rétro, très rentre dedans. Et ça marche plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt un peu répétitif, mais bien fichu. Voilà.
Ouais, bah alors moi j'avais passé beaucoup, des dizaines d'heures sur la version PC. Et mais c'est une bonne surprise, hein, ce Diablo 3. C'est effectivement, je craignais. J'étais vraiment, j'étais curieux de voir comment ils allaient adapter la complexité. C'est beaucoup dire. Mais disons,
le fait de cliquer 50 fois par seconde
les interactions avec les personnages, les arbres de talent. Et finalement, tout ça est plutôt bien rendu par un système de roues encore. Bon, la roue. un jour, avec une thèse sur la roue.
Mais c'est trop te plaît. Celle-ci, elle te plaît.
Ah non, il n'aimait pas sur. Mais celle-ci te va mieux.
Voilà, celle-ci te va mieux.
Oui, cette roue-là me plaît davantage. Merci. Et finalement, je trouve qu'on retrouve vraiment toutes les sens. Il y a toutes les sens du jeu, le côté très spectaculaire, des sons et lumières. Il y a toutes les cinq classes de personnages. On retrouve vraiment tout le contenu du Diablo 3 PC. Et en plus, par rapport, alors j'ai pas essayé. On retrouve donc le multijoueur. On peut y jouer en ligne, évidemment, à plusieurs. Et j'ai pas essayé. Et on peut
local
jouer
aussi.
Aussi jouer en solo, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la version PC, où il me semblait qu'il fallait être connecté en permanence. Ou je me trompe?
Ah, mais tu peux jouer en solo. Mais
il fallait être connecté.
Mais tu peux jouer en solo.
Oui, mais pas mais connecté. Et alors, voilà, t'es pas obligé de te connecter.
Ouais. Et donc. Oui.
Et aussi, en fait, ils ont. Alors, ça, j'ai pas essayé, mais ça doit être assez, sympathique. Ils ont implémenté un nouveau multijoueur, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur son canapé à 4
en local,
ce qui peut être intéressant. Bien, alors voilà. j'ai pas essayé, mais je pense que ça peut être une proposition intéressante de passer une soirée entre amis.
Bien fait fédératrice.
De toute façon, c'est une règle ici, le multijoueur local est forcément cool. Voilà.
Oui. Mais c'est vrai que c'est un plus comme Gauntlet à l'époque, comme tous les gens en local.
Je sais plus où est-ce que j'ai lu cette remarque qui est terriblement vraie, c'est que ces dernières années, on a agrandi les télés. Donc, par rapport à l'époque où on avait des cathodiques de 25 cm de diagonale.
GoldenEye,
qui était séparé en 4 écrans où on ne voyait rien, mais
sur
on était 36
cm.
Maintenant, on a des télés qui font 3,50 m de diagonale et il n'y a plus jamais de jeu en écran splitté.
Malheureusement, bien vrai.
Enfin,
il y en a quelques-uns, heureusement.
Il y en a quelques-uns, mais c'est.
C'est vrai, t'as raison. C'est dommage, un plus écran.
Voilà, j'avais lu ça quelque part. C'est pas de moi, mais j'avais trouvé ça particulièrement vrai. Et ben voilà, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo, avec ce Diablo 3 et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël?
Alors moi, j'élargis mon mon spectre musical, voilà. donc ça veut dire que je vais assister à un concert de Mylène Farmer d'un côté.
Voilà. Yes. Ah, tu en parles, c'est officiel.
Ah ouais, ah ouais, j'ai pas peur.
Je pensais que c'était complètement. Moi, je ne sais pas en parler. Hein.
Donc j'ai trouvé. C'était plutôt pas mal en fait. C'est vraiment. On peut discuter de sa musique pendant des heures. Le show en lui-même était vraiment spectaculaire. Et donc, c'était pas mal du tout.
C'était à Bercy. Hein.
Et à l'autre extrémité du spectre, je suis en train d'écouter un album qui va sortir chez Ninja Tune. Vous connaissez sans doute, c'est un label de musique anglais, électronique, assez pointu, qui mélange l'électro, du raga, du dubstep, enfin, voilà, des variétés donc, musicales électro. Anglaise. Et il y a cet album d'un mec qui s'appelle Machine Drum, Travis Stewart au civil, qui sort le 30 septembre, Vapor City, qui lui a été inspiré en fait par des rêves d'une, ce qu'il dit dans une interview, qui lui a été inspiré par des rêves en fait d'une ville. Et c'est un album qui plaira beaucoup, très brumeux, qui plaira beaucoup aux gens qui aiment bien les buriales. Alors je sais que bon, certains sont un peu rétifs à ce côté, un peu éthéré et cérébral, mais il y a une ambiance beaucoup plus dark, je trouve, dans Vapor City, et en même temps beaucoup plus soul. Donc moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Je recommande vivement.
Cool. Clément.
Moi, je suis allé à Pompidou. et pour la nouvelle expo de Roy Lichtenstein. Et Roy Lichtenstein, que je connaissais un peu comme tout le monde, que pour ses trucs pop art classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va au-delà du pop art. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres. Il y a 125 œuvres qui sont présentées. Et moi, au-delà des estampes, j'ai découvert des peintures et des œuvres en émail, et surtout des sculptures que je connaissais pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà du pop, et je trouve que l'expo, elle montre bien que ça va dans le postmoderne et le classique, et on voit vraiment à quel point il s'inspire, et l'expo est bien faite pour ça, qui s'inspire et qui renvoie à d'autres courants et à d'autres peintres contemporains. Et je le trouve, c'est une belle expo parce que je la trouve intéressante en termes de découverte et très didactique, parce qu'elle remet bien en perspective l'auteur par rapport aux autres, et je trouve ça très bien pour se mettre dans l'art. Donc je conseille Roy Lichtenstein, c'est jusqu'au 4 novembre à Pompidou.
Patrick.
Alors moi, je vais vous raconter ma vie, hein, parce qu'on est là pour ça. En fait, ce week-end, j'ai regardé le reportage qui est sur le Blu-ray de Prometheus. Moi, c'est un film que j'aime bien. Je sais que c'est un film
Mais t'as raison.
Voilà, on est deux ici. C'est un film qui emmène beaucoup de discussions.
Oui,
en fait, sur le Blu-ray du lancement, il y a un reportage de 6 heures. Enfin, j'avais rarement vu un reportage comme ça qui brasse vraiment toute la production du film, de la pré-prod jusqu'au lancement. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on a vraiment tous les détails. On pensera ce qu'on veut du film. Je trouve que c'est un film qui est plutôt osé dans ses thématiques, qui lance plein de pistes plutôt intéressantes. On sait que, justement, le making-of est intéressant parce qu'on voit que le film n'est pas forcément ce qu'il aurait dû être à la base. En tout cas, on en pensera ce qu'on veut, mais ce qui est assez mémorable, c'est qu'on voit que Ridley Scott a fait son film entièrement en dur. C'est-à-dire que tous les décors sont en dur, faits sur les plateaux. Il y a très peu, finalement, d'effets numériques. Et je crois que c'est un des derniers réalisateurs aujourd'hui à faire encore du décor en hard. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir le tournage avec le montage des décors hallucinants, etc. Donc voilà, c'est un beau reportage pour ceux qui peuvent le voir, assez intéressant, qu'on aime ou pas le film.
Mais
en tout cas,
heures,
c'est 6 heures. Ouais, j'ai fait plusieurs fois.
Mais
intéressant vraiment à découvrir, justement, pour voir ce qu'aurait pu être le film aussi. Parce que Prometheus, c'est aussi un film qui aurait pu exister derrière. Et peut-être dans une suite. J'espère qu'il y aura Paradise, que Paradise va se faire, qu'on aura la suite de l'histoire et que Scott ira encore plus loin. Enfin, moi, je le soutiens.
Moi, je suis juste au soutien.
Moi, depuis la dernière émission, donc comme j'en ai parlé, je me suis beaucoup, beaucoup consacré à la migration de mon site qui est passé, donc qui devient écran.libération.fr. Et on est très, très, très content au service écran.fr, donc de cette migration, même s'il y a plein de pétouilles et de choses qui vont être à corriger. Mais en fait, on s'amuse tellement en ce moment que le fait de corriger les pétouilles, c'est très bien, même si du coup, ça prend pas mal de temps. Et sinon, en fait, je rattrape, je voulais pas que ça soit le seul truc de cette séquence, je refais Invincible depuis le début, après avoir lu The Walking Dead, donc que de Kirkman. Je reprends toute la deuxième grande œuvre de Kirkman, donc Invincible, qui est toujours, voilà, je relis ça depuis le début, et c'est vraiment une très très grande série de super-héros, et j'aime beaucoup, et je la conseille à ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt. Alors, il paraît qu'il ne faut plus dire Libé Labo, mais on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo dans Silence on joue. Ça ne rime plus, mais c'est pas grave.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.